calmât les émeutes. Et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent. C'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 25 février 2016. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Delphine.
Alors ce soir de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de prison, d'état d'urgence. Laurent, tu reviendras sur Amnesty International aussi, tu parleras de M. Cazeneuve. Nous partirons en Albanie parler d'une lutte pour sauver le parc de Tirana. Nous parlerons de Rip Curl, vous savez, une marque de vêtements pour les surfeurs. On parlera environnement, hein, Laurent, t'auras pas mal de choses dessus. Tu nous parleras même de bagnole, hein, à Lyon aussi, je crois. Nous parlerons de rappel de produits. Hein, on a bien parlé de barres chocolatées dans les médias cette semaine. Ben, on va faire un petit tour du côté des rappels de produits. Nous aurons des brèves radioactives, hein, un petit peu comme toutes les semaines. Et puis, nous reviendrons étape 2298 sur le Festival International de BD. Et puis, si nous avons le temps, nous rirons...
Avec Laurent Wauquiez.
Non, pas avec. De Monsieur Wauquiez.
Je suis pas sûr qu'il rigole. Hein.
Non. Mais nous, oui. Alors tout de suite, un petit peu un retour et puis des informations sur la prison et l'état d'urgence, si tu voulais faire.
Oui, alors la petite info, vous avez tous, toutes vu ce fameux détenu de la prison de Béziers, samedi dernier, donc jeune, hein, une vingtaine d'années, qui utilise l'application Periscope pour se filmer et faire le malin dans sa prison avec son téléphone portable interdit, en se montrant en train de fumer un joint, enfin voilà, et en disant la prison c'est un petit Club Med. Belle provocation, puisqu'on imagine bien qu'il ressent pas ça vraiment, hein, c'était de la pure provocation. Le seul problème c'est que quand on fait de la provocation sur ce sujet-là et que c'est médiatisé, et ben c'est mal parti pour celui qui fait la provocation. Donc, suite à cette excellente et excessive médiatisation de l'affaire, le débat s'est tourné autour de ce que faisait ce détenu avec des joints et avec du téléphone portable. Alors, comme il a été prétentieux, qu'il a fait le malin, les enquêteurs avaient tous les éléments en main, hein, puisqu'il y avait toutes les preuves, c'est lui-même qui les annonçait. Du coup, dès dimanche, ce jeune homme, donc de cette prison de Béziers, on lui a piqué son portable. Il a été convoqué au commissariat, donc ils l'ont sorti de la tôle pour l'emmener au commissariat lundi. Mercredi, c'est-à-dire hier, il passait en comparution immédiate, et paf, c'est tombé aujourd'hui. Il a été condamné à 6 mois de prison supplémentaire pour s'être filmé dans, et puis pour avoir ce téléphone portable et avoir fait le malin dans sa prison. Donc il est accusé de recel d'un objet irrégulièrement introduit dans un établissement pénitentiaire. Il risquait quand même 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Bon, il a été condamné donc à 6 mois de prison supplémentaire, ce qui est déjà pas mal. 5 ans, ça fait peur hein, quand même, ça fait beaucoup hein, pour avoir fait le con, on risque beaucoup. Savoir que le réquisitoire du procureur, donc la voix de l'État, demandait lui 10 mois de prison ferme. La justice a été plus clémente que ce que demandait le procureur. Donc voilà, bon, on a appris qu'il avait déjà été condamné parce qu'ils avaient déjà trouvé des portables dans sa cellule. Ça a du coup relancé le débat effectivement sur le portable. On a le tout nouveau, tout fringant, tout jeuneau, pas si jeune que ça d'ailleurs, ministre de la Justice, hein, Jean-Jacques Urvoas, qui a expliqué qu'il avait deux solutions au problème. Alors attention, donc la première, rendre ces fameux téléphones inutilisables. Donc il faut les brouiller, je cite. Alors c'est compliqué. Alors brouiller des téléphones, c'est pas très compliqué. Brouiller des téléphones pour que le brouillage, il ne sorte pas de la prison et qu'il brouille pas les gens qui habitent de l'autre côté de la rue, parce que alors il y a certaines prisons qui sont un peu isolées dans la campagne, mais il y en a qui sont en pleine ville. C'est plus compliqué. Bon, mais il paraît qu'il y a déjà eu 3 millions qui ont été mis l'année dernière dessus, hein, du temps de Taubira. Donc ils vont peut-être trouver un moyen de le faire. Et deuxième solution, il a évoqué un renforcement de l'étanchéité des prisons. Hein, parce qu'elles ne sont pas étanches, elles ne sont pas étanches au téléphone en tout cas. Donc voilà, on nous rappelle que 30 000 portables ont été saisis en 2015. Mais ce qui n'est pas clair quand même finalement dans tout ça, c'est que les condamnations à la prison, c'est des condamnations à la privation de liberté. Et finalement en prison on a le droit de manger, on a le droit de se laver, on a le droit de dormir, on a le droit de lire, on a le droit de regarder la télé. Et il n'y a pas le droit d'utiliser un téléphone portable, pas le droit de jouer sur un téléphone portable. Il y a quand même des interdictions qui sont pas liées d'ailleurs à la peine, qui sont liées au règlement des prisons, en disant qu'on estime que c'est trop, ça faciliterait trop la vie détenue qui pourrait faire semblant d'être dans un Club Med. Sauf que ça n'empêcherait pas la privation de liberté. Du coup, il y a quand même une incompréhension pour beaucoup de ces interdictions des téléphones portables. Bon, il y avait de la drogue. Faut quand même. Alors, ça rappelle un petit peu ce qui se passe en prison, c'est que il y a des choses qui rentrent de manière illégale. Alors, l'accusation de la justice, c'est souvent de dire c'est les avocats. Il y a eu une affaire il n'y a pas longtemps où une avocate, parce qu'on fait plus chez les femmes que les mecs, bien évidemment, mais une avocate a été obligée d'enlever son soutien-gorge pour entrer dans la prison, parce qu'elle faisait sonner, bah oui, il y a des baleines, hein, des baleines métalliques, des fois. C'est quand même humiliant hein, d'être obligé de faire ça, parce que c'est souvent les avocats qui sont accusés de faire entrer des trucs en prison, ce qui arrive quelques fois, mais c'est pas forcément la voie royale, on va dire, pour faire entrer des choses en prison. Il y a de la corruption hein, qui ont lieu, donc c'est des matons, et puis il n'y a pas de la corruption, il y a aussi le moyen d'acheter la paix sociale en prison, parce que la situation sont très difficiles, très compliquées, et qu'effectivement les matons ils sont bien obligés de trouver des trucs pour pas que ça pète, et des fois faut lâcher, et notamment on le sait, pas forcément sur le téléphone, mais sur la bœuf, le shit ou des choses comme ça, on sait pourquoi ça rentre aussi, parce que les détenus, ils sont plus calmes hein, et c'est quand même plus facile d'avoir des gens calmes, peinards, assis dans leur prison, plutôt que des mecs qui sont remontés comme une pile et qui sont prêts à tout péter.
Mais même
quoi.
Pour les téléphones, hein, puisque pour beaucoup de détenus, c'est aussi un moyen d'appeler la famille. Et appeler la famille, parler à la famille, ça fait du bien. Et ça aussi, c'est la paix sociale, parce que le lien et le contact avec l'extérieur, il reste important. Parler à ses enfants quand on est en prison, c'est important. Et tous ces téléphones, ils servent aussi à ça, et pas mettre en place un futur marché de la drogue une fois qu'on sera à l'extérieur. C'est surtout du lien social.
Voilà, on imagine que la justice pense aux séries américaines, où on a le gros bonnet de la drogue qui continue de diriger de la prison. C'est un fantasme, hein, c'est une mythologie. Il faut peut-être effectivement empêcher que ça arrive, mais au-delà rendre la vie impossible, c'est la privation de liberté, la peine, hein, c'est pas la torture, c'est pas de vivre dans des conditions horribles, c'est pas tout le reste, hein. Bref, continuons dans l'état totalitaire, l'état répressif, et on va parler brièvement, j'ai pas détaillé non plus, le rapport d'Amnesty International. Vous savez, chaque année, d'ailleurs on en parle en général pour parler d'autres pays, et cette année je vais ne parler que de la France, puisque la France tient une belle place hein, dans ce rapport 2015 d'Amnesty International. C'est pas un des premiers pays non plus les plus horribles du monde, hein. faut quand même relativiser hein, si vous avez déjà fait des voyages. La France reste un pays relativement vivable, mais en un an ça a pas mal régressé. Du coup le rapport qui donc fait l'état de la situation des droits humains dans le monde, donc durant l'année 2015, a mis en avant toutes les lois liberticides, répressives, de surveillance de la population qui ont été mises en place, d'abord suite aux attentats de janvier et ensuite suite aux attentats de novembre. Donc il y a plein de choses qui sont expliquées comme ça dans le rapport. Il nous explique notamment que les deux grosses dispositions, hein, c'est des droits nouveaux accordés aux services de renseignement et des surveillances, hein, des communications téléphoniques. Donc ces deux dispositions qui ont finalement accordé à des services des pouvoirs exécutifs des nouvelles prérogatives, des nouveaux droits, des nouvelles libertés contre nos libertés à nous, hein, puisque c'est ça qui a été échangé. Donc le gouvernement a profité de ça, hein, ils attendaient que ça, finalement on s'est rendu compte, pour enlever un peu de liberté, faire du surveillance généralisée, de la surveillance généralisée, notamment d'Internet. Donc là, c'est ce que condamne un petit peu Amnesty International, qui notamment souligne la mise à l'écart de l'autorité judiciaire, hein, puisque effectivement, avec cet état d'urgence, toutes les choses liberticides qui ont été mises en place, c'est directement l'exécutif, c'est-à-dire les ministres, le premier ministre et le président, qui décident, et pas du tout la justice. Il n'y a plus de séparation de pouvoir, tout ça, le système démocratique est mis de côté. Alors, bien évidemment, ils ont mis un truc en place, hein, l'État, pour faire semblant, qui s'appelle la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mais qui, de toute façon, va contrôler a posteriori. Du coup, une fois que les gens ont été arrêtés, privés de liberté, torturés, tapés, ou simplement mis comme ça devant la vindicte populaire, regardez, c'est un méchant terroriste, puis en fait, non, c'était trompé de porte. Enfin voilà, vous connaissez toutes les affaires horribles, hein, qu'il y a pu avoir, d'erreurs. D'ailleurs, le rapport d'Amnesty International rappelle un petit peu toutes ces erreurs quelque part, puisque officiellement, hein, sur l'année 2015, il y a eu 2700 perquisitions sans autorisation de la justice. Donc c'est juste sous le coup de l'état d'urgence. Et tout ça a entraîné seulement deux informations judiciaires devant la justice pour actes de terroriste. Et tous les autres, soit c'était des innocents, soit ils en ont profité pour aller taper sur qui voulait, les jeunes qui les emmerdaient, ou les trafiquants de drogue, ou je ne sais quoi. Ça a été l'excuse, hein, une vraie excuse, hein, puisque sur 2698 mauvais cas, et seulement deux qui ont entraîné des actions en justice. Alors ça, c'est les chiffres en 2015, mais en fait, ça s'est encore accéléré depuis 7 semaines presque maintenant, parce qu'on est à 3289 perquisitions administratives, 571 procédures judiciaires, assignation de 407 personnes à résidence, hein, vous êtes en prison mais chez vous, ce qui est quand même plus sympa que la prison normale, mais c'est la prison quand même. Donc voilà. Donc le rapport dénonce un petit peu toutes ces choses-là dont on avait déjà parlé, mais c'est intéressant que ce soit une ONG qui le fasse. Alors peut-être que Hollande doit se dire, tiens, si je faisais comme Israël, comme la Russie, et que j'interdisais Amnesty International, parce que c'est une ONG qui est financée par de l'argent qui vient pas de France, hein, puisque c'est la nouvelle excuse des dictatures ou des régimes totalitaires pour interdire les ONG internationales. Peut-être qu'il pense à ça, parce que ça pourrait être effectivement la prochaine étape des mesures liberticides qui ont été mises en place en France. Oh, on espère qu'on n'ira pas jusque-là, mais on n'imaginait pas qu'il y ait un état d'urgence perpétuel qui soit mis en place, parce que là, on est bien parti pour en avoir un état d'urgence perpétuel, puisque M. Valls, le dictateur numéro 2 de la France, a dit que tant qu'il y aurait l'État islamique, l'état d'urgence était nécessaire. Alors comme ils sont a priori pas prêts de faire disparaître l'État islamique, ça paraît mal parti. Et puis dans la série, pour terminer, sur les mesures répressives et les conséquences, hein, de tout ça, les 5 plaintes déposées aujourd'hui, ça, alors même si c'est symbolique, quelque part, ça fait plaisir qu'il y ait de la réaction possible encore, qui rappelle quand même que la France, malgré toutes ces mesures, reste quelque chose qui se rapproche de la démocratie, puisque 5 anciens assignés à résidence dans le cadre de l'état d'urgence ont déposé une plainte avec constitution de parti civil afin d'obliger, grosso modo, l'État à répondre à leurs questions et à répondre de leur décision de les avoir mis en détention. À savoir que c'est en assignation. Ces personnes qui ont été mises en assignation, l'assignation a été abrogée avant que les recours devant la justice ne puissent aboutir. Donc tout de suite, eux, ils avaient fait des recours devant la justice et l'État a dit avant, non, on abroge avant que ça passe devant la justice. Ça montre bien que pour ces 5 personnes-là, c'est sûr, eh ben, il n'y avait rien. Et que Quand ils s'en sont rendus compte, ils se sont dit, vaut mieux pas qu'on ait l'air ridicule devant des tribunaux administratifs, on annule. Donc ça démontre un petit peu l'imbécilité et les excès liés à cet état d'urgence et au fait que les flics, parce que maintenant c'est ça, les flics ont tous les pouvoirs, ont plus de pouvoir que la justice. Alors, grosso modo, c'est ce que rappelle M. Michel Maître, on va dire, Maître Michel Toubiana, l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, hein, qui est constitué partie civile avec les cinq qui ont assigné l'État devant les tribunaux. Ils expliquent qu'ils n'y croient pas, ils ne pensent pas que la plainte va aboutir. Ils savent très bien comment marche la justice, elle reste quand même pas vraiment indépendante de l'État et que la plainte ne va pas aboutir. Mais ils pensent que ça va faire ressortir d'autres affaires, ça va amener des discussions et ça va peut-être faire hésiter certains élus pour arrêter de voter ces lois antiterroristes. 19 lois antiterroristes ont été votées depuis 1986. À chaque fois, les libertés individuelles reculent. Et ce que disait d'ailleurs le rapport d'Amnesty International, c'est que non seulement la France, elle a reculé, mais la France donne l'exemple, qui est toujours la patrie des droits de l'homme, ce qui nous fait bien rire quand on vit à l'intérieur. Mais du coup, les autres pays font pareil. Et en se disant, si la France le fait, patrie des droits de l'homme, nous aussi on peut reculer, on peut surveiller tout le monde, etc. Donc voilà. Alors il faut savoir que ces cinq personnes ont aussi déposé une plainte devant la Cour de justice de la République, qui est la cour qui est réservée aux élus, donc aux ministres notamment. Et là, ils visent directement Bernard Cazeneuve, qu'ils accusent, parce que c'est lui qui est responsable de ça. Donc voilà, c'est pareil, ils n'ont pas beaucoup d'espoir, mais c'est histoire de mettre un petit peu ceux qui mettent ces gens en prison, ceux qui contrôlent tout le monde, qui mettent la pression face à leurs responsabilités. Ce qui serait déjà une petite victoire.
Alors on va partir en Albanie, dans la capitale albanaise, on part à Tirana, et j'avais envie de vous parler d'une lutte pour de la défense du parc de Tirana. À Tirana, c'est une ville plutôt bétonnée, il n'y a pas beaucoup d'espace vert, c'est une capitale qui n'est pas non plus très grande hein, en termes de superficie.
Ouais, elle est entourée de montagnes un petit peu.
Et c'est entourée de montagnes, et au sud de Tirana, vous avez un parc avec un lac artificiel, et c'est vrai que c'est le lieu de promenade où les week-ends, tout le monde se balade.
Même la semaine, hein, il y a des gens... Le soir, il y a pas mal de monde.
C'est un lieu assez agréable. Ouais. Voilà. Qui n'est pas forcément hyper bien. Il ne faut pas imaginer un jardin à la française. Hein. Vous voyez,
c'est pas le parc de la Tête d'Or. Hein.
Non, c'est quelque chose de plus simple dans sa mise en œuvre. Mais les gens se baignent dans ce lac artificiel. Voilà. Et alors, il y a un mouvement citoyen qui s'appelle Citoyens pour le Parc, qui s'oppose au projet de remplacement de ce parc en un lieu bétonné, mais un lieu malgré tout destiné aux enfants. Voilà. Ça, c'est la proposition politique du maire de Tirana. Sauf que les militants et les militantes de Citoyens pour le Parc ne l'entendent pas comme ça. De cette façon, ça fait un moment déjà qu'ils ont lancé des manifestations. Et dimanche dernier, une nouvelle fois, ils et elles se sont réunis dans le parc pour se projeter donc à ce projet. Il faut savoir que les travaux ont déjà commencé sur une partie de ce parc. Et que ce parc était normalement protégé par une loi de conservation qui empêchait d'y toucher. Alors, cette manifestation de dimanche n'est pas très bien passée. Autant vous le dire tout de suite. Il y a eu 12 militants qui ont été arrêtés. Il y a un journaliste qui filmait en direct qui s'est vu arracher et confisquer sa caméra. Non, il faut quand même le faire. Sur place, il y avait des policiers, on va dire classiques, j'y mets des guillemets. Et à côté de ça, ils étaient accompagnés d'agents d'une unité spéciale qui s'appelle la Shkik Ponjat, sans l'accent albanais. C'est une sorte de GIGN, RAID, vous voyez, donc ils leur ont envoyé les Robocop, tout simplement. Donc ils se sont fait disperser avec violence. Il y a un policier qui a été filmé en train de frapper un manifestant avec une certaine vigueur. Le ministre de l'Intérieur l'a suspendu. Hein. Bon, suspendu, c'est que suspendu, je sais bien ce que ça veut dire. Mais malgré tout, il y a eu quand même une petite réaction. Donc une fois que ils ont été dispersés, ils se sont réassemblés, on va dire ça comme ça, et ils ont été devant la mairie de Tirana où ils ont été déposés les clôtures du chantier qu'ils avaient évidemment démontées. Et voilà, donc ils ont été les jetés devant la mairie, l'hôtel de ville, et puis ensuite ils se sont dirigés vers le commissariat pour soutenir les camarades emprisonnés et pour tenter de les faire sortir. Donc voilà, une réaction de la municipalité assez violente. Comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup d'espaces verts hein, à Tirana. Par exemple, il y avait la place Kanderberg, qui est une place centrale, qui avait été rendue aux piétons. Donc c'est vrai que ça rendait aussi un petit peu de respiration dans cette ville. Malheureusement, il y a de retour à la circulation.
Bah oui, c'est l'ancien maire qui avait rendu cette place aux piétons, et le nouveau maire a remis de la bagnole partout.
Et c'est bien dommage, parce qu'il y avait eu des aménagements qui permettaient quand même un petit peu une meilleure respiration dans cette ville. Alors, il paraît que tout ça, hein, c'est évidemment pour le bien des enfants, puisqu'il y a un développement de l'urbanisation à Tirana, et que donc il faut trouver un chouette lieu pour les enfants. Mais alors, les militants et les militantes ne comprennent pas bien pourquoi aller abattre un lieu familial dans lequel les enfants ont l'air de bien s'éclater, hein, tout ça pour aller construire un truc bétonné. Pourquoi? Eh ben, parce que il y a une certaine corruption toujours en Albanie. Hein, c'est pas fini. Nous, c'est ce qu'on nous avait bien raconté quand on y est allé. Il y a de l'argent à certains moments qui est mis sur des lignes pour, par exemple, refaire des routes. Pourtant, en Albanie, la plupart des routes sont absolument défoncées. Parce que l'argent, ben personne ne sait où il va. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce parc, hein. C'est-à-dire que l'appel d'offres pour bétonner cet endroit, alors déjà que c'est un problème hein, de bétonner l'endroit, mais en plus l'appel d'offres, il n'y a rien de transparent. Donc il y a quand même un petit peu des doutes et des suspicions pour se dire que le maire, il a récolté certainement un petit peu quelque chose pour que des entreprises aient des marchés. Donc ça aussi, c'est une des attaques hein, du collectif citoyen pour le parc. Ce qui est intéressant, c'est de suivre aussi le travail que le collectif y fait, par exemple sur leur page Facebook. Ils prennent des photos de Tirana constamment et ils les mettent en ligne, et alors on y voit des rues défoncées, des rues complètement boueuses, des trottoirs arrachés voire carrément inexistants, des fois il n'y a carrément pas du tout de rue hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est rénové à Tirana, l'argent, personne ne sait où ça passe, et c'est vraiment encore le problème du pays aujourd'hui, c'est la corruption de la classe politique, tout ça évidemment hein, avec les entreprises locales voire internationales. En décembre dernier, il y a eu de grosses manifestations, dont une, ils ont attaqué hein, les ministères, ils ont voulu rentrer dans le ministère de l'Intérieur, ils ont voulu rentrer un petit peu de partout, les manifestants, ils demandaient la démission du Premier ministre, Monsieur Rama, la démission de son gouvernement, et tout ça pourquoi ? Toujours pour corruption. Voilà, donc ce parc, c'est un symbole de la ville parce que c'est le seul espace vert qui existe de grande ampleur, hein, j'entends. Et puis que c'est un lieu qui est devenu aussi un lieu de symbole de cette corruption qui est toujours bien présente en Albanie. Alors pendant ce temps, il faut savoir que Monsieur Rama, lui, ça l'inquiète plus trop, puisqu'il se balade, qu'il va rencontrer d'autres grands de ce monde. Alors en tout cas, il était au sommet de Londres organisé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Et il est allé faire de l'humour en disant que si la Grande Bretagne sortait de l'Union européenne, l'Albanie voulait bien prendre sa place. Effectivement, ça a fait rire tout le monde. Reste qu'il va falloir peut-être mettre le holà un petit peu sur la corruption pour pouvoir peut-être un jour rentrer dans l'Union européenne, parce que pour l'instant, c'est un petit peu ça qui va freiner quand même encore le truc. Mais bon, ils se sont proposés.
Bah, ils s'y préparent. Hein. L'euro est accepté dans plein d'endroits.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Il y a des distributeurs qui distribuent l'euro. Non, ils essayent psychologiquement de rentrer dans l'Europe. Mais effectivement, il faudrait qu'ils... L'État,
ouais, et puis il faudrait que la population profite de l'économie qui est en train de se développer aussi. Alors, en parlant d'économie, on va parler de Rip Curl. Rip Curl, donc, c'est un fabricant de vêtements de surf au départ, hein, vraiment pour le surf de mer, hein, puis maintenant on trouve aussi pour la neige, enfin pour plein d'autres choses, hein, plus du sport finalement, même ça reste un petit peu spécialisé. Et alors, donc, cette semaine est sortie dans la presse que la collection hiver 2015 de la marque Rip Curl avait été fabriquée par des travailleurs de l'usine de Taedonggang, près de Pyongyang. Oui, vous avez bien compris, en Corée du Nord, donc. Alors, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est évidemment, déjà, ils ont été fabriqués, ces vêtements, en Corée du Nord.
Et c'est écrit « Made in North Korea » parce que ça pèterait quand même.
Eh ben non, sur les étiquettes, il y a écrit « Made in China ».
Ah oui.
Alors... Rip Curl évidemment a communiqué dès que cette affaire est sortie, expliquant qu'en fait c'était un de leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, qui avait fait fabriquer une partie de la collection en Corée du Nord sans autorisation, bien évidemment.
C'est toujours l'excuse des multinationales. Ça.
C'est ça. Donc et que en fait Rip Curl n'avait été informé que bien trop tardivement, une fois que tout ça finalement était en boutique et que bon bah
c'est pas grave.
Une fois que c'était fait, c'était fait. Alors bon, ils ont posté un joli message sur Facebook, ils s'excusent. Debuse, hein, Rip Curl, hein, tous les fondateurs. Ils expliquent qu'il y a des mesures immédiates qui ont été prises contre le fournisseur. Hein, clac, clac, on a entendu le fouet claquer sur ce poste sur Internet. Bon, faudrait qu'on peut même pas non plus les faire trop trop chier. En substance, moi, c'est ce que j'y ai lu, parce que ça ne touche que 4000 unités. Finalement, c'est pas grand-chose hein, sur toute leur production. Hein. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Et puis que, quand même, hein, mince, hein, ils sont contre la maltraitance des travailleurs, hein, même en Corée du Nord. Donc ils trouvent ça très très mal. Donc non, ils sont vraiment vraiment ils s'excusent. Hein. Rip Curl, le problème, c'est que n'a jamais accepté de communiquer sur la fabrication de ses vêtements. C'est-à-dire que c'est pas une entreprise qui est transparente. Donc bon, les excuses, c'est bien quand ça arrive un peu tard, hein, parce qu'évidemment, il faut essayer de faire croire qu'ils vont se rattraper. Alors moi, en cherchant un peu des informations comme ça sur Rip Curl, je me suis rendu compte que, ben, évidemment, le travail en Corée du Nord, c'était pas si rare que ça, puisque, ben oui, beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup, j'exagère un peu, mais un certain nombre d'entreprises chinoises délocalisent en Corée du Nord. Donc c'est pas mal, hein, une entreprise en Australie délocalise en Chine, qui délocalise elle-même en Corée du Nord. Voyez-vous, suivez, c'est ça la mondialisation, et que même la secrétaire nationale du syndicat des textiles australiens a expliqué dans la presse que ça se faisait assez fréquemment. Personne n'a l'air finalement bien embêté hein, de cette situation. Alors moi je me demande quand même s'il n'y a pas quelqu'un, enfin une entreprise là en ce moment qui n'est pas un petit peu embêtée. C'est Renault qui va sortir une Cactus, une nouvelle voiture au Salon de Genève, hein, qui va être présentée au Salon de Genève. Et cette nouvelle voiture est en partenariat avec Rip Curl. Et oui, il commence déjà à communiquer. On a déjà vu de la publicité pour cette série spéciale Rip Curl. Bon, voilà, là-bas, je me demande ce qu'ils en pensent de cette affaire. Est-ce qu'ils sont un petit peu gênés aussi ou pas du tout? Non? Peut-être leur envoyer quelques mails pour leur demander si cette affaire de travailleurs nord-coréens pour nos fringues, c'est un petit peu ou pas embêtant.
Alors, on va revenir en France et on va reparler de ce qui a été décidé au Sénat. Donc, on va faire ça sera la première partie de notre grosse rubrique environnement du jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un sénateur qui s'appelle Gilbert Barbier qui a déposé un amendement qui a été voté, adopté en première lecture, qui impose d'obtenir l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France pour implanter une éolienne à moins de 10 km d'un monument historique. Et là, on se dit 10 km d'un monument historique, vu connaissant la France quand même un petit peu, ben ça concerne l'ensemble du territoire, hein, parce que quel que soit l'endroit où vous allez en France, à moins de 10 km, il y a un monument historique. Il y a un truc typique, voilà. Donc, ben cet amendement entraîne d'office l'interdiction de toute installation d'éolienne. Voilà. Comment faire passer une interdiction? Alors, il y a des chances que les députés de l'Assemblée enlèvent cet amendement. Hein. Mais ça nous rappelle ce qui se passe, en fait, au sein du Sénat, au sein des assemblées, toute cette histoire de lobbying anti-éolien, anti-panneaux solaires, anti-environnemental, qui est très présent au Parlement et qui est très présent, encore plus présent, au Sénat. Et donc, suite à ça, d'ailleurs, on a revu réapparaître des articles anti-éolien, en disant que ça défigurait les paysages, ça tuait les oiseaux, que ça nuirait à la propagation des ondes, ça j'avais pas encore entendu, ça rendrait malade à cause des infrasons qui sont émis par les éoliennes, soi-disant. Enfin bon, bref. Tout plein de choses qui sont à 99,9% fausses. Alors bien évidemment, on sait très bien qu'une éolienne installée en plein milieu d'un magnifique paysage, ça impacte le paysage. Hein. Mais enfin, ça impacte pas plus qu'un pont, une autoroute, un champ de colza ou je ne sais quoi. On pourra d'ailleurs s'étonner que du coup, les éoliennes, qui sont donc le bouc émissaire finalement pour le Sénat de la défiguration du pays, y a qu'elles qui soient mises en cause dans l'amendement qui a été voté. Rien sur les 100 000 pylônes électriques hein, du réseau, qui alors pour le coup dévisagent et défigurent vraiment la France. Pas d'infos non plus, d'amendements contre les 10 000 km d'autoroute qui bousillent tout, les 30 000 km de route nationale, les multiples aéroports, les lignes de TGV, les panneaux publicitaires, enfin j'en passe et des meilleurs. Tout ça avec des conséquences plus importantes que les pauvres petites éoliennes, puisque la vie de millions de personnes ont été perturbées par toutes ces grandes installations. On a des exemples de villages coupés en deux, des gens qui perdent des bouts de terrain, qui ne peuvent plus vivre, parce qu'il y a aussi l'excuse que, soi-disant, la valeur a un impact sur la valeur des biens immobiliers. Quand on installe une éolienne, le bien immobilier il baisse. Alors ceux qui ont eu droit à l'arrivée d'une ligne de TGV, d'une ligne d'autoroute, d'une centrale nucléaire, d'un aéroport ou de je ne sais quoi, ils peuvent vous parler des vrais problèmes de dévalorisation des biens immobiliers quand toutes ces infrastructures bien pourries que défend le Sénat viennent s'installer à côté de chez eux. Donc voilà, alors ça... Ça rappelle cette attaque permanente. Et alors du coup, on va revenir un petit peu là-dessus. D'où viennent ces attaques permanentes? En fait, là, et pourquoi c'est relancé aujourd'hui? Pourquoi un tel acharnement finalement contre les éoliennes? Alors aujourd'hui, faut savoir que quand on installe une éolienne aujourd'hui, hein, il faut quelques semaines, au pire 2 mois le temps de poser l'éolienne et de raccorder, l'électricité que fournit l'éolienne a un prix inférieur à l'électricité que fournit la centrale nucléaire équivalente qui est construite aujourd'hui. Je ne donne pas des chiffres au hasard. Hein. Aujourd'hui, grosso modo, une éolienne, suivant la taille, ça fournit une électricité qui coûte entre 5 et 8 centimes d'euros le kilowattheure. Une centrale nucléaire nouvelle qui est construite en même temps, on a l'exemple qui est donné par le réacteur EPR construit par EDF au Royaume-Uni, puisqu'ils ont donné le coût de l'électricité produite pour avoir le marché, ça produit de l'électricité à 12 centimes. Hein, donc plus du double du plus bas coût de l'éolienne, mais toujours plus cher que l'éolienne. Donc on commence à comprendre pourquoi, d'un seul coup, réapparaissent tous ces anti-éoliens au moment où le nucléaire est un peu mis en porte-à-faux, mis en défaut, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en construction, construire quelque chose qui fournit de l'électricité, eh ben, si on construit du nucléaire, ça coûtera beaucoup plus cher. L'électricité coûtera beaucoup plus cher que l'éolien. Et c'est la même chose pour le solaire, d'ailleurs. Donc, ça c'est la première raison qui nous explique pourquoi il y a à nouveau ces campagnes de lobbying. Et puis, il y a un deuxième truc qui apparaît, et qui fait d'autant plus peur, c'est que les installations d'éoliennes, aujourd'hui, elles se font sur des petites structures, parce que ça coûte pas hyper cher. Du coup, il y a des communes, des groupements de communes, des petites entreprises, des petites coopératives qui se montent, et qui gèrent une, deux, trois, quelques éoliennes. Et, du coup... Eux, ils fournissent de l'électricité, les gens achètent et des gens, par choix ou parce que ça va coûter moins cher, partent petit à petit d'EDF. Et il y a la peur énorme qu'il y ait un deuxième contre-coup pour EDF, parce que c'est ça qui est en jeu. Et ben c'est que les gens se tournent vers d'autres types d'énergie et qu'EDF, ils sont là avec leur centrale pourrie, qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, c'est tout ça qui explique pourquoi les campagnes de lobbying de la part des nucléocrates réapparaissent très régulièrement. Et là, donc, encore cette semaine... ces dernières semaines. Voilà. Alors, on pourrait sortir plein d'exemples. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que le EDF, c'est une entreprise qui est détenue essentiellement par l'État. C'est pour ça, d'ailleurs, hein, que c'est l'État, c'est un élu de l'État qui propose ce truc-là. Ensuite, il y a d'autres soucis sur EDF, et c'est tout lié à EDF en fait, puisque par exemple, l'État a décidé de subventionner l'installation d'éoliennes en mer, et pas les éoliennes sur terre. Pourquoi? Parce que les éoliennes en mer coûtent très cher, c'est plus compliqué à installer. Du coup, c'est pas accessible aux petites structures, aux coopératives, aux habitants, aux villages, aux je ne sais qui voudraient le faire. C'est accessible aux gros groupes. Donc c'est accessible à EDF essentiellement, en France, ou Engie, enfin tous les gros groupes. Et là, l'État dit, ouais, ok, c'est les gros groupes, donc on finance. Et quand c'est les plus petites structures, on essaye de bloquer, parce qu'on ne veut pas installer qu'il y ait des petites structures, qu'il y ait des systèmes autonomes qui se mettent en place, avec toute l'idée de démocratie, hein, parce que souvent c'est des structures coopératives, ou des structures même pas coopératives, mais à l'échelle d'une commune. Donc du coup, la démocratie, elle marche quand même beaucoup plus que quand on a EDF en face de lui et qui nous construit une centrale nucléaire à quelques kilomètres de là où on habite. Du coup, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, les campagnes de lobbying réapparaissent, et réapparaissent quand même fortement. Alors, on avait, pour revenir sur les campagnes de lobbying, et pour redévelopper du coup les informations sur les campagnes de lobbying mises en place en France, Corinne Lepage avait sorti un livre qui s'appelle « L'État nucléaire », et elle démontrait comment EDF infiltrait tout l'État, alors les administrations, les ministères, les grandes entreprises, même les grandes écoles, et certaines associations environnementales qui sont soit phagocytées par EDF, soit carrément montées par des gens, des anciens d'EDF, pour faire la promotion du nucléaire et pour lutter contre ceux qui défendent l'environnement. Elle avait bien démontré ça dans son livre. D'ailleurs, elle avait aussi, on va le rappeler, que EDF a un double discours, c'est-à-dire qu'en France, EDF investit très peu dans l'environnement, essentiellement elle n'a investi que dans le nucléaire. Par contre, à l'étranger, elle fait l'inverse. À part en Angleterre, là où ils vont construire deux EPR, mais ailleurs, ils ont développé EDF Énergie Nouvelle, et ils investissent énormément en Inde, en Chine, dans plein de pays. Donc ils ont un double, comme ça, une double manière de fonctionner, parce qu'effectivement, en France, ils sont un petit peu coincés. Alors, dans la série des lobbies, on a des groupes pseudo-écolos qui se sont montés. Le plus célèbre, c'est Vent de Colère, qui est une association de droite, qui est anti-éolienne et pro-nucléaire. Alors face à eux, il y a quand même des groupes qui défendent les éoliennes, il y a en Avant Camarade par exemple en Ariège, ou d'autres groupes. Il y a même des groupes anti-éoliens mais qui sont de gauche, allez comprendre pourquoi, mais qui sont quand même anti-nucléaires. Mais la majorité des assos anti-éoliennes qu'on voit apparaître, ou qui sont là depuis longtemps, sont des groupes instrumentalisés par EDF ou par les nucléocrates. Alors on a notamment la Fédération Environnementale Durable, ça s'appelle la FED, la Fédération Environnement Durable, qui regroupe 1000 associations locales dont le but c'est de bloquer tout l'éolien. Eh ben, la FED, elle est dirigée par des gens qui sont issus du monde nucléaire. Par exemple, on y retrouve l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, qui a toujours été un grand défenseur du nucléaire. D'ailleurs, il l'a beaucoup développé en France. On retrouve Marcel Boiteux dedans, qui est un ancien PDG d'EDF. Oh, c'est bizarre. On retrouve d'autres gens, par exemple Christian Girondeau, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Écologie, la grande arnaque ». Donc on avait compris qu'il n'était pas écolo, qui est membre de la FED aussi, et qui est aussi membre d'un gros lobby pro-destruction de l'environnement qui s'appelle la Fédération Française des Automobiles Clubs. Il défend la voiture contre la marche à pied, le vélo, tous les trucs qui polluent pas, puisqu'il pense qu'il faut polluer pour se déplacer. Et donc, cette Fédération Environnement Durable, elle a un impact important, elle fait croire que c'est un gros truc, mais c'est construit, instrumentalisé par des anciens d'EDF, par l'infiltration de ces nucléocrates, issus essentiellement d'EDF, parce que EDF étant une très très grosse boîte, avec des centaines de milliers de salariés qui partent à la retraite régulièrement et qui vont continuer de faire le jeu de l'ancienne société dans laquelle ils bossaient. Et on a ces campagnes de lobbying. Alors ça marche pour ça, ça marche pour le syndicat des énergies renouvelables par exemple, qui des fois sort des trucs pas trop mal, mais qui des fois sort des trucs complètement à l'ouest. Pourquoi ? Ben parce que dedans, ils sont phagocytés par des groupes comme EDF, GDF, enfin Envy ou des choses comme ça. Et on a plein de choses comme ça qui se mettent en place sous des faux prétextes écolos et qui essayent de détruire les installations ou les idées qui seraient préjudiciables, grosso modo, au gros lobby de l'État sur le nucléaire, qui sont donc Areva et EDF, et bientôt ça sera plus qu'une seule boîte. Du coup, ça sera juste la défense d'EDF. Donc voilà. Alors, vous pouvez vous renseigner, il y a plein d'informations sur ces campagnes de lobbying, sur ils ont fait des films de propagande, c'est voir que c'est même complotiste des fois, tellement qu'ils sont ridicules ces gens. Et alors, bien évidemment, il y a ceux qui luttent contre l'éolien et qui ont des bonnes raisons, parce que des fois, dans des endroits, on n'est pas obligé de mettre de l'éolien. Enfin, il y a plein d'endroits où tout est pourri et on peut rajouter à côté d'une infrastructure qui est déjà moche, rajouter une éolienne. Il y a moult possibilités sans rajouter de la destruction de l'environnement en plus. Donc voilà, c'était pour refaire un point sur ces campagnes qui reviennent régulièrement pour dire que le nucléaire c'est bien et que le vent, comme c'est gratuit, c'est pas bien.
De la bagnole.
Oui, alors, le petit truc sur la bagnole, ça nous vient d'une étude qui est entre autres faite par le CITRAL, le syndicat des déplacements de la métropole de Lyon, parce qu'il faut dire comme ça maintenant, la métropole de Lyon. Donc l'enquête sur 2000, alors sur 2015, l'entrée de 2015 sur les déplacements. Donc on a une baisse de la part modale, on dit, hein, des voitures dans les déplacements. La dernière enquête datait de 2006. Il y avait 48% des déplacements sur à l'époque le Grand Lyon qui étaient faits en voiture. Aujourd'hui, enfin de l'année dernière, on est passé à 42%. Ce qui a gagné, c'est les transports en commun. Hein, qui ont vu leur part augmenter de 15% en 2006 à 19% en 2015. La marche a aussi un petit peu augmenté et le vélo, lui, reste stable. Hein. Depuis 2006, c'est 2% des déplacements dans la métropole de Lyon. Ça n'augmente pas. Effectivement, il n'y a pas de volonté d'augmenter non plus le vélo vu le peu d'infrastructures ou les infrastructures pourries qu'ils construisent qui souvent désavantagent plus les vélos qu'autre chose et en tout cas font peur à ceux qui voudraient basculer et qui se disent non, les infrastructures sont trop encore dangereuses par rapport aux automobiles, aux camions, à tout ça. Donc voilà, c'est plutôt ça va dans le bon sens mais on a encore presque la moitié, enfin 42% des trajets qui sont faits en bagnole. Il joue aussi hein, le fait que tout est payant au niveau parking, ce qui fait que les gens qui viennent de l'extérieur de Lyon se garent en dehors de Lyon et finissent en transport en commun. Il y a aussi ça qui joue. Voilà, on apprend, et alors il y a plein de choses, hein, qu'en moyenne les gens ont 62 minutes par jour de déplacement et qui font, donc ça a tendance à diminuer le temps de déplacement. Par contre la distance augmente, on est passé aujourd'hui à 17 km en moyenne par jour. Et puis, dernière info environnementale en lien avec tout ça, le glyphosate. Ah, le fils de retour de la vengeance du glyphosate. Le glyphosate, vous savez, c'est le truc qui compose le Roundup de Monsanto, la multinationale de la destruction de l'environnement. Donc la Commission européenne va proposer, alors c'est quelqu'un qui fait partie de l'exécutif européen qui a balancé l'info, va proposer le renouvellement du glyphosate pour 15 ans. Il faut savoir qu'en juin de cette année, l'autorisation du glyphosate va être, s'arrête. Du coup, il faut la relancer. Or, le glyphosate, il y a eu plein d'infos dessus, c'est cancérigène. Donc, d'après le Centre international pour le cancer, le CIRC, d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est une substance cancérogène probable. Mais il y a un groupe de pseudo-scientifiques qui sont phagocytés hein, par l'industrie, qui s'appelle l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui, eux, ont jugé improbable le risque cancérogène. Donc il va à l'encontre de la majorité des études scientifiques et la Commission européenne en profite pour se servir de cette instance, de l'avis de cette instance européenne. Et quand on regarde les conflits d'intérêts qu'il y a dans l'EFSA, on comprend pourquoi leurs avis ont aucun sens. Parce que quasiment tous les scientifiques qui sont dedans travaillent aussi pour l'industrie. Donc du coup, ils sont jugés partis et forcément, ils vont pas dire du mal de produits fabriqués par leurs employeurs hein, ou leurs financeurs, hein, parce que c'est plutôt des financeurs du coup. Donc voilà, c'est la mauvaise nouvelle. Alors c'est une info officieuse. Ça va arriver d'ici juin, mais il y a quand même une inquiétude sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate, qui sert essentiellement d'herbicide, dont on peut d'ailleurs totalement se passer. Mais c'est pas l'avis des multinationales, notamment de Monsanto, hein, qui essayent de nous faire croire que son produit est bon à la santé. Or, on n'a jamais vu aucun dirigeant de Monsanto prendre une cuillère de glyphosate et la manger. Hein. Bizarrement, ça ne doit pas être si bon que ça pour la santé.
Alors, la multinationale Mars a annoncé mardi un gigantesque rappel de barres chocolatées après qu'un consommateur a trouvé un petit bout de plastique rouge dans un produit.
Alors, c'était pas très grave quand même.
Non, alors c'est pas une histoire sanitaire.
Il n'a pas trouvé un serpent, il n'a pas trouvé de la salmonellose, voilà.
Voilà, c'est un petit bout de plastique rouge. Alors c'est des millions de produits hein, qui sont concernés. Il faut savoir que l'usine à Veghel aux Pays-Bas fabrique pour 55 pays. Donc potentiellement, effectivement, s'il y a une merde sur cette ligne de production, ça touche beaucoup de consommateurs, il faut bien s'en rendre compte. D'autant plus que le groupe explique que il a dû, dans chaque pays, donner des références précises, puisque beaucoup des noms de ces produits, de ces barres chocolatées sont identiques, mais il y a aussi des spécificités à travers le monde, donc c'est un sacré bazar quand même pour cette multinationale. Alors il faut savoir que Mars a signalé l'incident 6 semaines après avoir été prévenu par ce jeune consommateur. Alors il paraît que c'est le temps de l'enquête interne hein, pour comprendre de d'où venait le petit bout de plastique rouge. D'après un peu les informations que moi j'ai pu trouver, la multinationale pense que ça fait suite à des travaux qu'il y a eu dans l'usine et que ça se serait détaché de filtres protecteur, voilà, au-dessus de la chaîne de production. Et qu'il y a un moment, effectivement, ils se seraient aperçus qu'il y a quelque chose qui est tombé, mais ils n'avaient pas réussi à remettre la main dessus. C'est une des explications qui est donnée. En tout cas, c'est un rappel qui va coûter très très cher à la multinationale, hein, parce que au-delà du fait qu'il faut ramener tout ça, c'est aussi du produit à perte, mais il va falloir très très rapidement aussi regarnir les rayons, si vous voulez. Donc tout ça, c'est des coûts logistiques assez impressionnants. 55 pays, je vous ai dit, donc même si tous les pays, pour l'instant, a priori, n'ont pas été concernés par ce rappel, la plupart sont même quand même un peu touchés. Alors, on se demande pourquoi s'engager dans une telle procédure. Tu le disais, hein, Laurent, il ne s'agit pas de trouver une bactérie mauvaise à l'intérieur. C'est pas un problème sanitaire comme on a pu en avoir ces dernières années. Bon, en même temps, Mars avait déjà connu ça. Hein, c'était en août 2014. La multinationale avait dû rappeler des boissons chocolatées du marché français. Il y avait peut-être une présence d'une bactérie à l'intérieur. Donc, bon... C'est déjà, à l'époque, ça avait déjà dû réagir. Mais là, on se dit, c'est vrai que c'est un peu un cas isolé. Bon, le truc, c'est quand même, il y a une réputation à tenir. Il faut se rendre compte que cette multinationale, c'est le troisième groupe agroalimentaire mondial, la septième société familiale aux États-Unis d'Amérique. On va revenir sur cette spécificité. C'est le numéro un mondial des friandises chocolatées, du chewing-gum. Et de la nutrition animale, voilà, c'est-à-dire sur ces secteurs-là précis, c'est le leader. Hein, donc ça va être des marques, je vais vous en citer deux, trois, comme ça vous saurez à quoi on a affaire. Ça va être Sheba pour la bouffe animale, Fridan pour les chewing-gums, les Bounty, les Mars, les Snickers, les Milky, tous ces trucs-là, c'est eux aussi. Et le riz Oncle Ben's, c'est aussi la multinationale Mars. Alors, c'est un gros machin quand même, hein, 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 70 000 salariés, 5 000 en France. Donc c'est pour ça que je vous parle de multinationales depuis le début. C'est un gros machin. La particularité, c'est donc cette entreprise, cette structure familiale. Les héritiers des fondateurs Franck et Ethel Mars possèdent toujours 100% du groupe. Et c'est pas coté en bourse. Hein, c'est aussi une spécificité pour un truc aussi gros hein, quand même. Et aussi bien placé dans le secteur agroalimentaire mondial. Donc c'est toujours la famille de Franck et Ethel Mars qui sont aux commandes, même si là le nouveau patron vient de l'extérieur. Voilà, c'est quand même un truc de famille. Et puis ce qui fait toujours marrer la presse quand on parle de cette multinationale, c'est que son siège social est en Virginie, à McLean. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? La CIA. Et en fait, c'est une entreprise extrêmement, c'est une multinationale extrêmement secrète, Mars, et donc souvent les gens font des parallèles un peu osés entre la CIA et la multinationale. Bon, alors c'est vrai que c'est une affaire qui a été extrêmement médiatisée, on en a beaucoup entendu parler, et pourtant, encore une fois, c'est pas une affaire sanitaire, mais ça enlève pas la problématique de ce truc en plastique qui aura jamais dû se trouver dans une barre qu'un gamin va bouffer, on est bien d'accord. Alors, bon, le truc c'est que les rappels, il y en a tout le temps, Bah oui. Moi, je me suis rendue assez simplement sur le site internet UFC Que Choisir. J'ai fait un petit tour et je me suis intéressée au rappel concernant le mois de février et simplement le mois de février. J'ai trouvé 30 rappels. Oui, alors la plupart du temps, ça concerne les bagnoles. C'est pas très rassurant.
Ben si, enfin c'est pas rassurant, mais c'est compréhensible. C'est un outil qui contient des dizaines de milliers de pièces. C'est très compliqué à construire. Et comme c'est comme tout le reste construit en série, quand on a une merde sur un, on a une merde sur 10 000 véhicules. Quoi.
Mais alors évidemment, on trouve après d'autres produits. Sur les jouets, on se doute tout de suite qu'il y a un problème de sécurité. Sur des produits électroménager, électronique, on peut se dire qu'il y a des problèmes peut-être aussi de dangerosité.
Ouais, ça peut prendre feu.
Par exemple, il y a un diffuseur, aujourd'hui on a eu cette info, rappel du produit diffuseur nature et découvertrice de choc électrique, ne pas utiliser. Donc il y a ce genre d'informations, mais vous allez y trouver des vêtements aussi, ou une cordelette, voilà, un vêtement pour enfant avec une cordelette qui tient pas, l'enfant pourrait s'étrangler avec. Hop, c'est un rappel de produit. On y trouve un gel nettoyant défatigant Energy Express Men Active Carrefour Carrefour, risque de contamination bactérienne. Hein. Et voilà, dans les cosmétiques, c'est pareil.
Le problème de tous ces trucs, c'est qu'ils lancent des appels, mais personne n'est au courant. Donc, les produits restent dans la nature et restent dangereux dans la nature.
Exactement. En général, c'est parce que les gens ont des problèmes, hein, d'ailleurs, qu'ils finissent par les ramener. Et on trouve évidemment de l'alimentaire. Alors, pour beaucoup d'alimentaires, ça avait des problèmes d'étiquetage. Donc, les produits sont appelés parce qu'il y a un étiquetage au niveau des allergènes qui peut ne pas être apparent. Et donc, là, les produits sont appelés. Parfois, c'est tout bête. C'est juste que l'étiquette, elle est collée du mauvais côté et ça suffit pour appeler le produit. Et puis, il y a des choses, par exemple, comme ces framboises brisées pica, dans lesquelles il y a une non-conformité microbiologique. Ces haricots verts extra fins Carrefour, ça date du 22 février, hein, le rappel. C'est, je vous le dis, hein, si vous en avez chez vous. Présence éventuelle de morceaux de verre. Ouais, et puis,
là, pour le coup, c'est plus dangereux.
C'est plus dangereux. Hein, c'est pour ça que je vous dis, on trouve vraiment, il y a tout. Hein. Ou alors, c'était mardi, saucisson sec, les gorges de l'Aveyron de Auchan, présence de salmonelle, ne pas consommer. C'est l'indication qui nous est donnée. Voilà, pour dire qu'en fait, il y en a tout le temps. Il y a aussi un radiateur à bain d'huile qui risque de prendre feu, nous apprend-on. C'est extrêmement courant. Donc, évidemment, c'est plus important qu'on s'attouche une multinationale comme Mars. Parce qu'au niveau économique, c'est un truc de fou quand même. 55 pays hein, pour une seule usine qui fabrique pour 55 pays, c'est quand même un truc de dingue. Mais voilà, c'est en fait un truc extrêmement courant. Et les problèmes dans les produits et dans la fabrication, il y en a quand même tout le temps.
Alors,
c'est à toi.
Oui, quelques petites infos radioactives en bref. La nouvelle du jour sur TEPCO, vous savez, c'est l'entreprise qui possède les centrales de Fukushima qui ont pété il y a 5 ans, hein, quand il y a eu le tremblement de terre, hein, qui est à l'origine d'ailleurs du cassage des centrales, amplifié tout ça par le tsunami. Donc ils ont avoué officiellement hier qu'ils avaient menti dès le départ. Qu'ils savaient dès le départ qu'il y avait fusion du cœur des trois centrales, et ils ne l'avaient pas dit. Voilà, donc bon, c'est juste pour rappeler que les sociétés nucléaires mentent toujours, malheureusement, et que la TEPCO n'a pas fait exception à la règle. Et puis la deuxième info qui est plus près de chez nous, on va aller dans le nord de la France, à La Hague. Vous savez, La Hague, c'est le centre de retraitement. Alors ça s'appelle un centre de retraitement, mais ça ne retraite pas les déchets nucléaires, parce qu'on ne sait pas retraiter les déchets nucléaires. Ça les sépare et les reconditionne. Et ils ont des cuves pour faire ça. Et il y a l'autorité de sûreté nucléaire, hein, ceux qu'on appelle le gendarme du nucléaire, qui sont allés inspecter ces cuves et qui ont trouvé que la corrosion radioactive était très importante et qu'il fallait falloir faire quelque chose rapidement. Donc ils ont fait des mesures sur les seules parties qui sont accessibles, parce qu'il y a une grosse partie qui n'est pas accessible. Ils ont déjà trouvé que les cuves étaient très très abîmées. Alors il faut savoir, par exemple, qu'elles avaient une épaisseur de 14 mm lors de leur mise en service. Aujourd'hui, elles font entre 8 et 10 mm. Donc c'est bouffé par les radiations. Les radiations attaquent les métaux. Ce qui est le cas des cuves, d'ailleurs, dans les centrales nucléaires. Donc voilà, c'est un coup dur pour Areva, hein, qui gère ce site, bientôt géré par EDF. Non, mais je crois que c'est pas cette branche-là, d'ailleurs, qui va être réintégrée dans EDF, si j'ai bien tout compris. Pour l'instant, c'est pas officiel. On verra ce qu'ils vont réintégrer. Mais voilà, ça rappelle que le nucléaire, c'est très compliqué. C'est pas une centrale. Pourtant, c'est la zone européenne dans laquelle il y a le plus de radioactivité concentrée. C'est à La Hague, donc c'est potentiellement hyper dangereux.
Oui, en rappel, j'aurais pu aussi vous parler de ces protections d'hygiène féminine, comme on dit, de la marque bio-organique qui s'est fait pointer du doigt, hein, dans l'enquête de 60 millions de consommateurs. Ils ont retiré, hein, le fabricant italien Corman a décidé de retirer ses protège-slips, puisque dedans, il y a du glyphosate.
Et oui, le truc, voilà, de Monsanto.
Et alors c'est des produits bio, hein, donc c'est pas normal que ça soit là, non, bien évidemment, mais le fabricant a réagi très très rapidement en disant oula, on a un souci, on va voir pourquoi et comment ça se fait. Mais voilà, c'est aussi des choses, et là c'est quand même 3100 paquets qui ont été retirés de la vente. Donc voilà, allez lire l'enquête, hein, de 60 millions, c'est assez intéressant sur les tampons et les serviettes hygiéniques. Alors très très rapidement, juste pour vous dire que avec le Festival International de BD, on ne s'ennuie jamais, puisque quand on croit que c'est fini et que ça y est, on est passé à autre chose, et ben non, on y revient encore, et cette fois c'est les éditeurs de BD qui montent au créneau et qui ont fait un communiqué de presse qui s'appelle « Sauvons le Festival d'Angoulême ». Ce sont les éditeurs du Syndicat National de l'Édition et les éditeurs du Syndicat des Éditeurs Alternatifs, 41 éditeurs qui ont signé ce communiqué. Alors... Ils expliquent que le festival est parvenu à décrédibiliser notre profession aux yeux du monde entier. Ils l'ont mauvaise un peu.
Ouais, faut pas exagérer non plus. Hein.
Ouais, mais parce que c'est vrai qu'en interne, je pense que ça fait un trêle barouf que, bah oui, forcément, il y a un peu une réaction. Alors, ils en appellent à la nouvelle ministre de la culture, Madame Azoulay, en espérant que celle-ci mette sur la table un médiateur, en tout cas autour de la table un médiateur, pour qu'il y ait une transformation de ce festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Alors, qui est visé, hein, Franck Bondou, le directeur, le délégué général, et puis 9e Art Plus, la société organisatrice du festival, qui sont attaqués hein, depuis le début sur ce festival et sur... Festival 2016, excusez-moi, j'en rigole encore. Bon, ils sont pas tendres en disant que, de toute façon, il y a une gouvernance qui est pas bien, que il y a eu des errements, il y a eu, bon, ils rappellent, hein, l'absence des femmes dans la liste des auteurs éligibles au Grand Prix, le mécontentement des auteurs sur place, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des débats sur le fait que quand les auteurs interviennent dans le cadre du festival, ils sont pas payés. Le festival estimant qu'en fait, ils font leur promotion. Sauf qu'en ce moment, il y a des négociations et que, normalement, en étant partenaire du Centre National du Livre, ils devraient rémunérer les auteurs qui viennent animer ce festival, parce qu'ils font pas juste de la promotion, bien évidemment ils font de la promo, mais ils font aussi vivre le festival et ils l'animent, et donc voilà, il y a eu un petit peu là-dessus des attaques. Ils parlent aussi de la baisse de la fréquentation, bon, faut dire que cette année c'était peut-être pas vraiment... très très facile, l'opacité des prix, et puis ils rappellent aussi une cérémonie de clôture désastreuse.
Bon,
jusqu'au bout, c'est vrai que ça a été.
C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de bol cette année.
Donc voilà, ils en attendent maintenant hein, du ministère de la Culture. Ce qu'ils espèrent, c'est que le festival soit transformé. Bon, on verra. Sinon, annoncent-ils, ils vont boycotter la prochaine édition 2017. Ils ne viendront pas. Donc globalement, ils donnent un an au festival pour améliorer un petit peu la situation. Alors, on va terminer, si tu veux bien, avec une blagounette. Excusez-moi, mais des fois, on a besoin un petit peu de s'amuser. Alors, cette semaine, moi, j'ai lu Gala.
Quelle horreur!
Mais j'ai lu Gala simplement parce que Monsieur Wauquiez était dedans.
Ah, le nouveau chef de la région.
Oui, c'est ça. Alors, vous inquiétez pas, on reparlera bientôt de Gérard, hein, Gérard Collomb. Mais pour l'instant, on est un petit peu bloqué sur Monsieur Wauquiez quand même. Il faut dire qu'il en fait des bonnes. Alors, c'est pages 92 et 93. C'est un entretien un peu dégoulinant au niveau des bons sentiments. Il y a de belles confidences. Page de droite, on voit Monsieur et Madame sur des vélos pour montrer quand même qu'ils sont sportifs. On apprend hein, qu'ils regardent Game of Thrones. Super, tout le monde
c'est
fait
original,
ça.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, c'est super tendance. Page de gauche, on a un ruban de photos intimes. En haut, avec les enfants. Juste en dessous, front contre front avec Charlotte, sa femme.
Donc eux, ils utilisent l'image de leurs enfants faire de la politique.
Ouais, moi ça me gêne. Très sincèrement, d'être devant Gala en train de poser avec ses gosses, en train de jouer à un jeu. Non, sérieusement, enfin, c'est naze. Arrêtons d'utiliser ces gosses, quoi. Donc on n'apprend pas grand-chose, hein, autant vous le dire.
Ouais, non, mais dans Gala, c'est pas pour apprendre des choses.
Alors parce que quand même, Gala s'est demandé si c'était le genre idéal ou le bad boy.
Ouais, alors bad boy, c'est pas possible. C'est un espèce de cato intégriste coincé, donc il peut pas être bad boy. Et genre idéal, bah si vous avez des enfants et que vous rêvez que vos enfants se marient, parce qu'il est marié, hein, il est pas en concubinage, hein, qu'il se marie avec un cato intégriste, peut-être que c'est le genre idéal. Sinon, non. Hein.
Alors Gala nous explique rencontre aussi avec l'homme aux deux visages. Tension, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont vu, hein, Gala, parce que moi, j'ai jamais vu ça, mais bon. Donc, on apprend que le dimanche après-midi est sacré, que ça se termine toujours par une soirée de crêpes et un film qu'on regarde tous ensemble.
Oh, c'est beau.
Oh, c'est beau, hein.
Et le dimanche matin, il va à la messe.
Ah, ça il n'en parle pas. Bah, il n'y a pas ce truc-là. Donc, on apprend que sa femme, Charlotte, est d'une grande douceur avec une force exceptionnelle. Elle a une belle âme et pense faussièrement aux autres. Hein. C'est donc Laurent qui dit ça de Charlotte.
Ouais, alors, l'âme, j'aimerais bien qu'il vienne me la montrer, parce que ça fait des milliers d'années que des imbéciles parlent de l'âme et qu'on n'a jamais vu l'âme. Donc si lui il l'a vu, je veux bien qu'il vienne, parce que je pense qu'il pourrait avoir un prix Nobel hein, si jamais il montre l'âme de sa femme.
Mais c'est surtout bon pour nous dire à quel point tout ça, ils sont un couple finalement beau et puis oui, bien important, puisqu'un avec le sport, tout ça fait, quand on a une belle âme et qu'on est sportif, tout ça, on est bien dans son corps, bien dans sa tête. Il explique, lorsque que j'ai renoncé à ma prime de ministre après 2012, cela a eu des conséquences financières pour notre famille. Mais elle, Charlotte, a tout à fait compris ce choix. Ben, j'espère bien, mon gars, quoi. Tu voulais quoi, garder ta.
Pas. Ben oui, c'est le famille non, mais plutôt à l'ancienne. C'est lui qui ramène.
Il a pas honte de parler de sa prime comme ça, hein, qu'il a dû à un moment s'asseoir dessus.
Enfin, vous inquiétez pas, même sans la prime, il gagne beaucoup plus que vous.
Ouais, c'est pour ça hein, que je me permets cette réflexion. réflexion. Et puis plus loin, Gala lui demande « Êtes-vous superstitieux ?»« Complètement !» répond-il. « Chaque année, je ramasse un marron que je polis et que je garde dans ma poche. » Voilà. Con. Voilà, et donc ça dirige notre région.
Ben, de toute façon, il est croyant, donc c'est déjà une superstition. Donc en plus, il garde des marrons. Il n'a pas parlé du trèfle à quatre feuilles et de la pâte de lapin.
Il parle jamais de la région, hein, évidemment, c'est pas le but. On est dans Gala. Gala fait un peu semblant de parler politique, mais enfin bon, ça va que dans son sens. Voilà, c'est vraiment très, 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 très beau. D'ailleurs. Ça, j'en perds la voix, oui, je sais même plus quoi en dire. Monsieur Wauquiez, donc, ça y est, trouver la personne en charge de son courrier, hein, ça a fait scandale cette semaine, puisqu'il avait décidé d'embaucher un fonctionnaire ou lauréat de concours, donc, pour trier son courrier. On l'accusait, en fait, de vouloir simplement étoffer, excusez-moi, son cabinet, en faisant une espèce de tour de passe-passe. Donc, il a engagé, a priori, une personne, Aude Moriou, formée à Sciences Po Lille, qui, a priori, triait déjà son courrier précédemment. Donc voilà, il ne s'est pas gêné, hein, c'est-à-dire qu'en fait il a tout simplement agrandi son cabinet en trouvant un nouveau poste pour continuer à bien s'entourer, ce monsieur Wauquiez.
Eh ben, il nous reste 1 minute 20 pour terminer ce Canu Info. C'est difficile de terminer avec Wauquiez parce que ça ne fait pas rêver. C'est surtout quand on sait qu'il est relativement jeune, hein, puisqu'on ne peut pas dire qu'il est jeune non plus, hein, mais il a la quarantaine. Ça veut dire qu'on risque de se le taper un petit moment. Donc voilà, si vous voulez aller voir à quoi ressemble un endroit géré avec la mentalité de Wauquiez, il faut aller dans sa ville, hein, avant qu'il soit à la région. Je vous laisse aller dans le 43, en Haute-Loire, la capitale de l'Haute-Loire. Vous allez voir, la capitale de l'Haute-Loire, c'est pas très ouvert, pas très rock'n'roll, pas très fun, pas très bad boy, hein, grosso modo, la capitale de la Haute-Loire. Enfin bon, bref, parlons un petit peu de l'agenda dans les quelques secondes qui restent. Ce week-end, à Hauteville, il y a le Buget C Trip numéro 7, la version hivernale, donc avec plein de choses. Alors c'est une action culturelle et festive en soutien aux migrants, le thème de celui de ce week-end, de ce samedi. Et des projections, de la bouffe, des concerts, voilà. Si vous êtes du côté de l'Ain, de Hauteville, renseignez-vous, c'est vraiment super sympa. Et sinon, c'est mardi soir, on sera le 1er mars, au cinéma Le Zola, donc cours Émile Zola à Villeurbanne. Il y a une soirée avec un documentaire qui s'appelle « Cette guerre et nous », et c'est autour de la guerre d'Algérie. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur cette guerre, j'ai pas du tout vu de quoi parler exactement ce documentaire, mais voilà, c'est autour de la guerre d'Algérie. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour le prochain Canu Info, et nous la semaine prochaine.
Ouais, bonne soirée à tous et toutes. Ciao, ciao.
Bye, bye.